Vous écoutez France Culture.
Divers aspects de la pensée contemporaine. Aujourd'hui, l'Union rationaliste, une émission proposée par Emmanuel Huysmans-Perrin. Bernard Richard, bonjour.
Eh bien, bonjour.
C'est à plus d'un titre que j'ai plaisir à vous recevoir à l'antenne de l'Union rationaliste. Nous avons été collègues à la fin de votre carrière, qui a oscillé entre diplomatie et enseignement de l'histoire. Nous avons été collègues au lycée Descartes d'Antony. Et en historien républicain, vous occupez votre retraite à composer des livres passionnants, soit sur les cloches et les querelles de clochers, en reprenant ici la tradition d'Alain Corbin, soit sur les emblèmes républicains. Et aujourd'hui, je voudrais vous interroger sur le très beau livre que vous venez de publier aux éditions du CNRS, intitulé « Les emblèmes de la République ». Pour qui a aimé les livres de Maurice Agulon sur les Mariannes et pour qui aime les lieux de mémoire de Pierre Nora, comme moi, impossible de ne pas s'intéresser à votre dernier ouvrage, Bernard Richard. Première question donc que je souhaiterais vous poser. Est-ce en républicain fervent, que vous vous intéressez à la façon dont la République se donne à voir et à aimer?
Alors avant de répondre, je devrais préciser que nous étions collègues et amis. Parce que l'historien a souvent besoin de l'appui de la philosophe pour les concepts et la philosophe a souvent besoin pour le background, la contextualisation de l'historien.
Absolument.
Donc nous avions coopéré sur différents domaines. Je me souviens qu'on parlait du jansénisme, par exemple. Vous m'aviez demandé ce qu'était le jansénisme. J'avais réussi à vous répondre plus ou moins. Vous m'aviez aidé sur d'autres domaines. On avait parlé de l'avortement aussi un jour. Mm-hmm. Bon, alors républicain, bien sûr, dans ces emblèmes de la République, ce que j'ai cherché à retrouver, c'est toute la ferveur, l'esprit batailleur qu'avaient les Français pendant longtemps, depuis la Révolution française jusqu'à ce que la République se stabilise un siècle plus tard, jusqu'à ce qu'elle arrive au port, cette ferveur autour de ces images, qui étaient irradiées par les valeurs de la République. Et aussi, parce que c'était les citoyens aussi français que les non-républicains, la ferveur autour du drapeau blanc, autour de la fleur de lys, la ferveur autour des symboles républicains, mais en même temps des symboles anti-républicains. Et c'est une France en bataille. Aujourd'hui, ces emblèmes sont un petit peu refroidis et j'ai cherché à les réchauffer. On a un consensus mou.
Mm-hmm.
Oui, Marianne, tout le monde connaît Marianne. Et autrefois, quand on brandissait une Marianne, eh bien, on pouvait se retrouver en prison. Le bonnet phrygien, je ne pense pas qu'un seul Français sache vraiment ce qu'est le bonnet phrygien, qui a toute une histoire, qui n'horripile plus du tout les Français, mais qui reste, par exemple, dans le monde anglo-saxon, quelque chose qui est lié à toute la violence de la Révolution. Parce que j'ai été non pas diplomate, mais paradiplomate pendant longtemps, attaché culturel, j'ai été amené souvent à faire des interventions, soit moi-même directement comme attaché conseiller culturel, soit préparant doctement des discours d'ambassadeurs. Et j'ai été amené à trouver des thèmes, et c'était souvent le drapeau, le 14 juillet, Marianne, tous ces symboles que nous, les Français, nous connaissons relativement, mais qui étonnaient l'étranger. Un coq. Pourquoi la France est-elle représentée par un coq? Et bon, ça m'a donné des études sur le coq gaulois, qui n'a aucun rapport avec le coq religieux, mais et puis le coq romain, etc.
Alors Bernard Richard, oui. Précisez-nous, et pour les auditeurs de France Culture, deux choses. Le bonnet phrygien, que moi je rattache aux esclaves de l'Antiquité.
Oh là là, grave
peut-être
erreur.
Peut-être avec
vous n'êtes que philosophe.
Hector, voilà.
Oui.
Et puis parlez-nous du coq.
Oui, bon. Alors, bon, le bonnet phrygien, dans l'Empire, dans ce que Paul Venn appelle l'Empire gréco-romain, c'est-à-dire le monde dominé par les Grecs d'Alexandre et puis par les Romains, le bonnet phrygien, c'est le bonnet typique de celui qui est à l'est de cette de ce domaine, de cette ère culturelle gréco-romaine. Ça représente l'oriental. Et le bonnet phrygien a représenté l'oriental depuis la Grèce. On le met sur les orientaux ou les mythes orientaux comme Persée, par exemple. La Phrygie a une colonie, c'était Troyes, alors Paris, etc. On leur met le bonnet phrygien. C'est toujours l'oriental. De même qu'un arabe, vous lui mettez facilement un tarbouche ou un turban. À l'oriental, les Grecs et les Romains mettaient un bonnet phrygien. Et on a continué, 16e, 17e, 18e, vous avez Paris représenté par David, un tableau célèbre avec un bonnet phrygien rouge, rubicon, splendide. Mm-hmm. Ça représente l'oriental.
Alors pourquoi
et les Français, l'inculture des Français à la veille de la Révolution française, mais une culture qui est maintenue, puisque tout à l'heure vous parliez du bonnet de l'esclave, on a confondu le bonnet de l'oriental avec ce qu'on appelait en latin le pileus, c'est-à-dire le bonnet de feutre, le bonnet de poil. Le pileus qu'on mettait, qui est un bonnet conique, qui n'a pas du tout la forme du bonnet phrygien, ce bonnet conique, on le mettait sur l'esclave, à Rome, sur l'esclave affranchi. Et c'est au XVIIIe siècle qu'on commence à confondre l'un et l'autre.
C'est une confusion, transfert révolutionnaire.
Moi, j'ai commencé à voir des bonnets qui devenaient phrygiens à la veille de la Révolution française.
Donc, le
bonnet phrygien représente l'oriental, mais lorsque l'abbé Grégoire définit par décret de la Convention l'emblème, le nouveau sceau de la République, il dit ce sera une femme vêtue à l'antique, tenant une pique au bout de laquelle il y aura un bonnet phrygien ou bonnet de la liberté. Alors là, on a la confusion complète.
D'accord.
Bonnet phrygien ou bonnet de la liberté, alors que dans la réalité de l'histoire, mais l'histoire ne compte pas, là, c'est la légende qui compte, c'est la mémoire,
c'est le symbole.
Le bonnet phrygien, c'est l'oriental. Le bonnet de la liberté, Pileus, a une forme différente. On les a confondus, mais longtemps, longtemps. Et aujourd'hui encore, je ne citerai pas les historiens qui ont écrit un dictionnaire de la République que j'ai pratiqué, dans lequel il y a encore, on vous dit, le bonnet phrygien, c'est celui de l'esclave romain. C'est pas vrai.
Bien. Très bien, cette confusion est levée, je vous remercie de l'avoir levée. Bernard Richard, et pour le coq ?
Ah, le coq...
Gaulois ?
Le coq gaulois. Colette Beaune, qui est une illustre médiéviste que notre président Sarkozy avait emmenée à Don Rémy pour parler de Jeanne d'Arc.
Bien sûr, à Don Rémy.
Ce qui m'a permis, puisqu'il ne m'avait pas emporté, de parler moi-même de Jeanne d'Arc. Nous étions deux historiens relativement médiocres, l'un et l'autre, Max Gallo et Bernard Richard, qui étions restés ici, tandis que Philippe Contamine, Colette Beaune, tout ça était là-bas. Elle a parlé des deux coqs, le coq de la chrétienté, c'est le coq de Saint-Pierre, le coq que n'entend pas Saint-Pierre. Et ce coq que l'on dresse sur les églises, on les dresse très tôt. Vous connaissez tous vous connaissez tous ce qu'on appelle la tapisserie de la reine Mathilde, vous êtes une dame, vous savez que ce n'est pas une tapisserie, mais une broderie, la broderie de Bayeux, parce que la reine Mathilde, elle n'a rien à voir là-dedans. Donc la broderie de Bayeux, on y voit un clerc qui dresse sur le clocher de Saint-Pierre de Westminster, un coq. Donc, à la fin du XIe siècle, on a déjà ces coqs. Alors ça, c'est le coq représente, je le dis à mon curé de temps en temps, le coq représente le clergé. Le coq, il protège les fidèles contre les démons qui rôdent autour dans le village. Donc, c'est le coq religieux. Mais il y a aussi le coq médiéval, qui est le coq que l'on moque. Le coq du roman de Renard. Mmh. Alors ça, c'est le coq arrogant, mais froussard. C'est le coq du fabliau médiéval. Et
qu'on
qui est très péjoratif. Très péjoratif. Que les Anglais et les Flamands, qui étaient nos ennemis, les identifiaient au roi de France et à la France. Le traité de coq, eux, ils étaient des animaux nobles. L'Angleterre, c'était un léopard ou un lion. L'empereur, c'était un aigle. Et le roi de France, misérable, coq de basse-cour. Eh bien, les rois de France n'en voulaient pas, c'était une insulte. Et puis au XVIe, on découvre que pour les Romains, le coq, c'était un des animaux familiers de Mars, de Jupiter. Mmh. Le coq, vous ne le saviez pas peut-être, c'est le seul animal qui peut vaincre le lion, le roi des animaux. en lui perçant les yeux. Donc, dans le légendaire grec et romain, le coq, il est très courageux. Il y avait des combats de coqs, déjà, et le coq représente non pas le Gaulois. Le Gaulois était représenté par un sanglier, mais le coq représente le soldat et la vaillance du soldat. C'est la vaillance. Alors ça, on retrouve ça au XVIe siècle, et à ce moment-là, la France commence à adopter le coq.
Comme
et
symbole.
Dans la galerie des glaces que tout le monde connaît, que personne ne regarde, il y a des pilastres, et au sommet des pilastres, il y a des chapiteaux. Les chapiteaux sont formés de ce qu'on appelle l'ordre français, créé à la demande de Louis XIV, dans lequel il y a des palmes de la victoire et des coqs. Cet ordre a été rapidement abandonné. Mais enfin, sous Louis XIV, le coq était, a commencé à représenter la France. Puis alors la Révolution l'a repris, etc.
Bon, revenons aux emblèmes de la République et non de la France. Donc vous opérez dans cet ouvrage un parcours monumental sur l'évolution des emblèmes républicains, de cette première République révolutionnaire qui reprend ou non, expliquez-vous, des images de l'Antiquité, en vous arrêtant massivement sur la Troisième République et jusqu'à aujourd'hui. Alors la question que je voulais vous poser, c'est, Bernard Richard, c'est qu'est-ce qui vous semble le plus marquant dans cette évolution des emblèmes?
Le plus marquant, c'est le contraste entre la façon, de combat, de bataille, de guerre franco-française qui a entouré ces emblèmes pendant des années, des décennies, etc. Et au contraire, la pacification, le consensus mou, l'indifférence que l'on a aujourd'hui. Partons de Marianne, si vous voulez.
Bien sûr.
Bon, Marianne, Maurice Aguillon a écrit. Maurice Aguillon, c'est mon maître vénéré, qui m'a appris à penser, mais qui m'a appris aussi à voir, à regarder les monuments. Quand vous voyez une mairie, par exemple, et puis qu'elle est moderne, qu'elle est d'une architecture différente du reste du village, c'est le progrès que représente la République. Quand vous regardez la Tour Eiffel, vous ne pensez pas que la Tour Eiffel, c'est la République. C'est le centenaire de 89 et c'est la liaison entre la République et le progrès.
L'ouvrage de Pierre Nora sur les lieux de mémoire fait
alimente cette histoire magnifique des
mairies.
Oui,
entre
Pierre Nora et Maurice Aguillon, j'aimais une petite différence, c'est que Pierre Nora, c'est un chef d'orchestre extraordinaire.
Absolument.
Il n'a pas écrit un seul gros ouvrage d'histoire, il n'a pas fait de thèse, il n'a fait de recherche sur un domaine précis, mais il a fait travailler les autres de façon admirable.
Il a initié des recherches.
Il a initié des recherches, il a lancé, il a su choisir les hommes, et ses lieux de mémoire, en particulier la République, c'est une petite merveille. Mais il a su prendre Prost pour je ne sais pas comment on prononce, pour les anciens combattants, Maurice Aguillon pour la mairie, Vauvel pour Marseille, pour la Marseillaise, etc. Alors, quand on commence, par exemple, Marianne, c'est un sujet de dispute. Et on détruit les Mariannes sous Napoléon III, par exemple. On abat les quelques Mariannes qui existaient. Sous la Troisième République qui commence, si la Marianne a un bonnet phrygien, eh bien Thiers l'interdit. Et la Commune avait renforcé la virulence du bonnet phrygien. Il a fallu le centenaire de 1789 pour qu'on reprenne la Marianne à bonnet phrygien comme quelque chose du patrimoine de la Révolution. Et comme nous sommes républicains, nous sommes fils, descendants, héritiers légitimes de la Révolution, donc vous pouvez reprendre le bonnet phrygien. Mais pendant longtemps, il a été extrêmement conflictuel. Les Mariannes à bonnet phrygien était extrêmement conflictuel. Aujourd'hui, on les met sur les timbres-poste. Le seul affront qu'on puisse faire à une Marianne, c'est de mettre le timbre à l'envers. Mais autrement, on ne la regarde même pas. Vous décapsulez une bouteille de vin, vous voyez qu'il y a une licence à la Marianne. Vous avez une amende. Quand vous avez à payer une amende, il y a une Marianne dessus. Bon, on ne la regarde même pas. On ne sait même plus ce que c'est. Et pourtant, c'est une spécificité française de représenter de façon permanente la République par une allégorie féminine. Allégorie féminine. Contre le roi, quoi. Le roi était masculin en France. On n'a jamais eu de reine, on n'a jamais réussi à avoir de reine régnante. Donc on a eu des rois.
Vous m'avez fait part de votre agacement par rapport à la personnalisation, la peopleisation des Mariannes. J'aimerais bien que vous développiez ce point.
Oui,
Laetitia Casta.
J'ai pas vraiment le temps de développer, mais Marianne, ça représente la République. La République, c'est un régime institutionnel, mais ce sont en même temps des valeurs. et des valeurs qui tendent à la perfection et qui l'atteignent, des valeurs accessibles par la République. Or, représenter la République, on l'a toujours représentée par une anonyme, une anonyme que l'on ne pouvait pas personnifier. Lorsqu'on se met à la personnifier, et qu'en plus, il s'agit, alors là je vais dire des bêtises, qu'on la personnifie par une femme, tout homme est faillible. On n'est plus dans la perfection. Et quand en plus ce sont des femmes, c'est peut-être pire. Enfin là, ça ne se dit
c'est
pas.
C'est du machisme. C'est du machisme ordinaire. Horrible.
Non, mais je veux dire, quand on prend Brigitte Bardot ou quand on prend Laetitia Casta et qu'elle devient un problème fiscal.
Ou Mireille Mathieu, je crois qu'elle a été.
Oui. La tradition républicaine fait que Marianne étant la perfection politique, on ne peut pas la personnifier par une personne que l'on connaît.
Au fond, cette pipolisation est anti-républicaine.
Elle est anti-républicaine. Elle est contraire à la tradition républicaine. Marianne, c'est une anonyme. Il n'y a aucun modèle de Marianne. Quand on me demande, mais quelle est la Marianne cette année? Mais il n'y a aucun modèle de Marianne. Ce n'est pas parce qu'une banque en déconfiture qui s'appelle Dexia a créé avec une amicale privée de maire de France une espèce de concours un peu folklorique. Bon, c'était pour s'amuser. Et maintenant, on prend ça au sérieux. Oui. Non, ce n'est pas respecté. Il y a une vénération nécessaire du symbole de la République. Si on veut respecter la République,
il faut
et
la
disons
laisser
la République,
anonyme.
Qu'elle soit sociale et démocratique, libérale et démocratique, c'est quand même une valeur pour laquelle les Français ont lutté pendant plus d'un siècle. Et ça se respecte, ça se respecte. Et je trouve que sa personnification, sa starification, c'est une prostitution de Marianne.
Je suis absolument
d'accord. Ou un dévoiement, d'accord. Un dévoiement pour parler de façon moins machiste.
C'est...
Un dévoiement de Marianne
c'est
et de la République.
Je suis parfaitement d'accord avec vous. C'est sur ces derniers mots, Bernard Richard, que nous allons clore cette émission. Je vous remercie.
Merci à vous.
Le numéro 615 des Cahiers rationalistes comporte deux articles, une critique de la conception du temps de Bruno Latour par Gilles Gauthier et une discussion autour de la question de la complexité en réponse au livre de Michel Blais, Les clôtures de la modernité. Le numéro 180 de Raison présente traite du cinéma sous le titre Le cinéma, permanence et métamorphose. Le mois prochain, je recevrai Hélène Langevin, physicienne, présidente de l'Union rationaliste. Au mois prochain. Je remercie Philippe Palares et Brigitte Mazir qui ont rendu possible cette émission.